Bonjour, c'est François-Régis Gaudry. Toutes les semaines, vous écoutez On va déguster en podcast. Eh bien, je vous propose de découvrir Tout un plat, une série de vidéos originales dans lesquelles j'explore avec vous les dessous d'une spécialité emblématique. Après le croissant ou l'œuf mayo, ce mois-ci, nous perçons les secrets de la salade César. À retrouver sur franceinter.fr et sur la chaîne YouTube de France Inter. À très vite.
Oui, bien sûr.
Mmh, c'est bon. Mmh.
On va distinguer deux variétés principales aujourd'hui. Le gros camus de Bretagne, c'est celui qui est le plus consommé, c'est celui que vous trouvez partout. Et puis il y a le violet de Provence, évidemment.
Et après, on a des beaux violets qui sont un petit peu plus gros, qui sont vendus à la pièce, qui sont épineux. Il a un petit goût de noisette par rapport au violet.
L'artichaut.
Il y a une odeur de poitrine fumée, là, d'artichaut et de cébette, pommes de terre mélangées, c'est... Ça a l'air un délice.
C'est très bon, c'est très doux. On peut le déguster longtemps. On peut faire durer le plaisir.
C'est le seul plat que quand t'as fini de manger, t'en as plus dans ton assiette que quand t'as commencé.
Bonjour à toutes et tous. Chaud, l'artichaut sur le plateau dont on va déguster. Petit violet de Nice ou gros camus de Bretagne. Aujourd'hui, on cultive, on cueille, on tourne, on cuisine et on raconte un légume de légende avec nos deux invités du jour. Tout d'abord, notre pote du potager, Xavier Mathias, bonjour.
Bonjour.
Botaniste érudit, expert en permaculture, vous êtes sur le plateau dont on va déguster dès qu'on parle de légumes, c'est-à-dire assez souvent. Et vous allez nous raconter l'histoire piquante, on va comprendre pourquoi, de l'artichaut, depuis le bassin méditerranéen jusqu'au potager du roi à Versailles. Vous nous avez rapporté des énergumènes végétaux sur le plateau, stupéfiant.
Ah ben ce sont des chardons. Hein.
Oui, donc c'est ça, c'est étonnant. On va bien le voir, effectivement. Et attention, ouïouïouï, ça pique. Une cuisinière niçoise, très en vue sur la scène gastronomique parisienne, c'est Julia Sedef-Djian. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien, Julia ?
Et vous ?
On est ravis de vous recevoir. Vu votre talent immense au fourneau de Baïetta, 5 rue de Pontoise, Paris 5e, une étoile Michelin après, je ne sais pas combien de mois d'ouverture, mais très rapidement.
C'est jamais trop rapide. Hein.
C'est jamais trop rapide. Surtout que vous aviez déjà eu une étoile avant dans un restaurant précédent et vous étiez la plus jeune étoilée de France.
Exactement.
Donc, belle performance. Baïetta, ça veut dire bisous, figurez-vous, en patois niçois. Et des bisous, eh bien, Julia Sedef-Djian en fait avec des artichauts, l'un de vos légumes préférés que vous cuisinez en Valois, en cru, en cuit, en bonne niçoise que vous êtes. Dans les fauteuils des chroniqueurs, Estherelle Payani et Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Salut.
Bonjour à tous.
Estherelle.
Aujourd'hui, mon cœur fait bzzz, je vais être tout miel, tout sucre et tout fleur.
Oui, hommage aux plantes mellifères pour favoriser notamment la pollinisation en aidant nos amis les abeilles. Jérôme ?
C'est peau du vinaigre.
C'est ?
C'est peau du vinaigre.
C'est peau du vinaigre. Bon, alors là, j'ai pas du tout le résultat de l'énigme. On l'a à peu près vers 11h32. Réagissez en direct dans l'émission via l'application mobile de France Inter ou en nous envoyant un mail à onvadéguster@radiofrance.com. Je suis sûr qu'il y a plein de questions, d'interrogations sur ce fameux légume qui est l'artichaut. Notre réalisatrice Laurent Thomas mitonne l'émission à la console avec Jérémy Guyon et Nadia Chougui. Toutes nos infos, les recettes de nos invités sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Je voudrais vous raconter une belle histoire de table que j'ai vécue avec mon voisin de droite.
Eh oui.
Jérôme Gagnès, dans une adresse découverte, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient, par ma voisine de gauche, Estherelle Payani, critique gastronomique à Télérama, sortir. C'est un poste, figurez-vous, chère Estherelle, un poste de votre compte Instagram daté du 7 avril qui m'a alerté. Ce commentaire, 3 ou 4 fois par an, je tombe sur un cuisinier, un vrai, qui ose se faire plaisir sans oublier ses clients. Et ce commentaire accompagnait une splendide photo de Saint-Jacques gratiné. De quoi s'agissait-il ?
Des noix de Saint-Jacques nacrées, servies dans leur coquille, juste posées sur du gros sel, tout simplement. Mais surtout, ornées de pommes duchesses, façonnées directement à la poche à douille.
Pommes
comme
duchesse,
un faisceau de pommes de terre.
Ça dit quelque chose à Julia ou pas ?
Forcément. Des bons souvenirs, d'apprentissage, ça.
C'est ça. Il y a de l'œuf hein, et de la purée.
Œuf et purée, jaune d'œuf et purée. Et un petit côté old school qui m'a vraiment, vraiment fait pétiller les papilles. Et pourtant, on est à 2 pas de l'Assemblée nationale, en plein quartier des ministères.
Oui.
Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le Café des Ministères,
voilà,
de Jean
adresse.
Et Roxane Sévègne.
Formidable adresse. Jean Sévègne a travaillé chez Hélène Darroze, chez Franck Cherouti, l'excellent chef du Louis XV à Monaco. Et on peut dire que Jean Sévègne sait cuisiner, il nous l'a prouvé. Cuisiner, ça veut dire, comme vous le dites, Estherelle, remettre au goût du jour la pomme duchesse avec des Saint-Jacques.
Ah, mais c'est
ça...
délicieux la pomme duchesse.
C'est délicieux, on est d'accord. Mais ça veut aussi dire s'essayer, par exemple, à la nage au Chardonnay, de feu Alain Chapelle, le grand chef 3 étoiles qui faisait des étincelles à Mionnet, dans l'Ain, au nord de Lyon. La nage au Chardonnay, c'est un courbouillon parfumé au vin blanc, au chardonnay, avec un peu d'orange, un peu d'anis, réduit, lié au beurre blanc. Et cette sauce divine venait lubrifier, il n'y a pas d'autre mot, des filets de Saint-Pierre, juste cuits à la vapeur, avec du quinoa bio cultivé en Anjou. Le quinoa bio, il a pas compris le coup du quinoa. Il trouve ça absolument grotesque. Il aurait préféré un bon riz basmati, mon voisin de droite.
Non, pas basmati, un très bon riz thaï.
Un très bon riz thaï, pourquoi pas.
Suriname, ouais.
Mais je peux vous assurer que ce quinoa bio cultivé en Anjou, Xavier Mathias, il était croquant sous la dent, vraiment extraordinaire. Vous aimez bien le quinoa?
Oui, moi, oui. Contrairement à ce qu'on dit sur le quinoa, qu'on caricature, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est pas une céréale en plus, donc ça nous permet nutritionnellement de varier toujours.
Absolument, et quand c'est cultivé en plus pas très loin de Paris, dans des conditions naturelles, on est heureux. Cuisiner, c'est aussi remettre au goût du jour. Une recette qu'on avait presque oubliée, dont on prête l'invention au grand Antonin Carême au XVIIIe siècle, le...
Quel désastre.
Il ne se souvient plus de ce qu'il a mangé.
La croûte de vol-au-vent.
Ouais, le vol-au-vent.
Le vol-au-vent, extraordinaire. Et quand j'ai vu, en fait, j'avais vu ce vol-au-vent sur les réseaux sociaux. C'était peut-être bien ton poste, Cyril.
Non, moi je vais y retourner pour le manger.
Bon,
je pense.
Alors c'était et je me suis dit voilà enfin un restaurant dans lequel on va venir et on va pas poser du parquet. On va vraiment bouffer. Et c'était absolument admirable. On voit un vol-au-vent arriver, absolument magnifique, majestueux, crémé, brun d'une crème qui a servi à lier le déglaçage de la poêle dans laquelle des morceaux de volaille fermière ont rôti.
Avec des
riz de veau, avec des pointes d'asperges vertes.
Des morilles.
Oh là là. Tout ça est bien gras, tout ça, sans être lourd.
Savoureux, on dit.
N'édulcorons pas le langage sans arrêt. Il y a du gras, et c'est pour ça que c'est très bon. Il y a du moelleux, parce que la viande est très moelleuse. C'est absolument extraordinaire.
Ce vol-au-vent était un puits d'amour de pâte feuilletée. Cuisiner, c'est aussi être soucieux du verre autant que de l'assiette, et le verre, c'est la mission de Roxane, la femme du chef.
Ah oui, et dont elle se tire avec les honneurs et bien plus que ça encore. Voilà une très jolie carte des vins, et ce qui est très appréciable dans ce quartier qui est un peu plaqué or, eh bien c'est que on trouve beaucoup de vins à des prix et très raisonnables. Je vous en cite deux très rapidement. À Bordeaux, un très joli Côte de Bordeaux rouge 2016, domaine du Petit Campet à 29 €. Mmh. À ce prix-là, on peut en prendre deux bouteilles.
Oui, bah, c'est pas donné pour tout le monde, mais c'est vrai que...
Dans un restaurant de ce niveau-là, franchement, c'est formidable. Deux bouteilles, évidemment, si on est quatre à table. Sauvignon, ensuite, un très joli blanc à Sauvignon. Comme un dimanche sous un cerisier, c'est joli comme nom de cuvée ça, comme un dimanche sous un cerisier, du domaine Laurence à Marcillac. Alors la cuvée est en vin de France, mais c'est bien le terroir de Marcillac qui est à l'honneur ici à travers ce très joli Sauvignon 2017 à 23 €.
Première formule au Café des Ministères à 25 et 29 €, c'est un peu plus cher, ça c'est sûr, que les prix qu'on vous propose habituellement, mais c'est pour un sourcing de produits exceptionnel, éco-responsable, pour un travail technique absolument remarquable. Le Café des Ministères, l'adresse de Roxane et Jean Sévègne, 83 rue de l'Université Paris 7e. Hein. Merci beaucoup Estherelle pour le tuyau.
C'est un plaisir, on y retournera ensemble.
Et on leur passe le bonjour de la part d'On va déguster quand on y va. Dans un instant, on plonge au cœur de l'artichaut, mais pour l'heure, alors vous allez faire de la place dans le salon, vous allez pousser les fauteuils, vous allez même chercher vos enfants qui ont besoin de se dépenser, vous allez bouger vos corps grâce à notre programmateur musical Djoubaka. Elle s'appelle Lizzo, elle est américaine et elle fait un carton aux États-Unis avec son titre Juice. On danse et on déguste sur France Inter.
Try. Now you know. I like shouting naked better over time. I'm not the baddest bitch you like. Ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta blame it on my juice. Yeah, 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 yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, 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 yeah.
Quelle est étrange cette pratique qui consiste, bractée après bractée, à susauter un bout de truc mollasson, suffisamment insipide pour avoir besoin d'une sauce afin de rattraper sa flagrante quasi-absence de goût. Après avoir patiemment lapé tous ces trucs, suffisamment en tout cas pour que votre assiette déborde, vous arrivez enfin sur une sorte de foin. Allez, encore un peu de patience, et vous allez, après l'avoir soigneusement ôté, pouvoir vous régaler du fond, il n'y a pas si longtemps, encore appelé cul. Vous voilà d'ailleurs face à la vraie question existentielle posée par l'artichaut, est-ce qu'on vient de toucher le fond ou a-t-on fait autant d'efforts pour un cul tout aplati ? Je me suis permis de vous lire, cher Xavier Mathias, c'est un extrait de La vie érotique de mon potager chez Terre Vivante, formidable bouquin où vous racontez effectivement une face assez cachée des légumes et des plantes potagères. Avant d'avoir du fond, l'artichaut avait donc un cul.
Oui, enfin, c'est ce que dit De Combes. Hein. On est autour de 1750 et lui parle du cul d'artichaut. Ce qui peut expliquer aussi que dans l'écrit de Paris, moi j'aime beaucoup l'écrit de Paris, on avait artichaut c'est pour monsieur, c'est pour madame, pour réchauffer le corps et l'âme et pour avoir le cul plus chaud.
C'est ça.
En fait, il y a toujours eu cette ambivalence dans l'artichaut, mais aussi parce que le manger, c'est déshabiller longuement. Voilà, c'est prendre le temps d'un long déshabillage pour arriver à quoi ? Tout est de la question est là, en fait. À quoi on arrive après ce long déshabillage ? Un cul ou un cœur ?
Mais voilà. Vous n'êtes pas très tendre avec cet artichaut. Ça a l'air de vous fatiguer, cette pratique qui consiste, feuille après feuille, à susauter l'artichaut. Qui est-ce qui a pratiqué ça autour du plateau dont on va déguster ce gros artichaut ? Alors là, plutôt le gros Camus de Bretagne, hein,
voilà.
Que l'on faisait, que l'on ébouillantait, que l'on blanchissait, que l'on faisait tout simplement cuire dans l'eau bouillante. Mmh. Et ensuite, avec une petite vinaigrette, vous avez connu
à
ça ou pas ? C'est vrai.
Non, moi, ma mère nous en faisait le soir.
Vous aimiez ça ?
J'adorais ça, oui. Ouais.
Ah non, moi c'était cru, je suis provençal.
Ah oui, pardon. C'était le petit
artichaut. J'avais jamais vu un artichaut cuit. Hein.
Évidemment. Il vous énerve un peu cet artichaut. J'ai l'impression que vous l'aimez davantage, Xavier Mathias, botaniquement que gustativement ou sociologiquement presque.
Alors je trouve que c'est un drôle de parcours parce que à l'origine c'est un chardon, hein, comme le cardon, etc. Donc plutôt un truc de pauvre, un truc abondant partout dans la nature qu'on sélectionne. Voilà, on l'a toujours. Les chardons, on les a toujours à portée de main. C'est pour ça qu'on en a autant mangé en fait, hein, paradoxalement. Et on sélectionne donc ce Cynaras collimus, donc ce chardon. cardon pour faire le cardon, donc des pétioles épais et larges, et l'artichaut, même plante, hein, des capitules. Vraiment, ces fleurs qu'on va manger avant qu'elles s'ouvrent. Mais c'est vraiment un truc de riche, hein, quand on y pense, parce que ça prend un bon mètre carré quand même, ça prend énormément de place, de l'artichaut, et puis vous récoltez quand même pas grand-chose.
Oui, hein. C'est vrai que c'est quand on y pense, il y a beaucoup d'énergie, d'abord beaucoup de place effectivement dans le potager, parce qu'il y a de larges feuilles qu'on consomme pas,
voilà,
parce qu'elles sont très fibreuses, beaucoup d'énergie à le cultiver, et puis ensuite beaucoup de préparation en cuisine et beaucoup de déchets.
Et voilà, et donc il y a eu un côté aristocratique qui a été très vite prêté à l'artichaut, qu'on considérait comme un fruit d'ailleurs, hein. Rabelais, l'orange, au rang des fruits. Donc on voit pourquoi ça peut plaire comme ça. Après, donc il revient par l'Espagne et l'Italie, et on sait que tout ce qui vient d'Italie, c'est très chic en fait. Hein. Des mets qui arrivent de l'Italie, c'est comme maintenant avoir le iPhone 32, hein, en fait. Hein. C'est il y a un côté, voilà, je mange comme Catherine de Médicis, mais en fait derrière tout ça, moi je crois qu'il y a vraiment deux grosses habitudes. Il y a, dans le sud de la France, on le mange cru. Et là, il est complètement différent. C'est deux produits différents, en fait. Quand on le mange cru et quand on le mange cuit. C'est, il y a, voilà, deux réalités qui n'ont rien à voir entre elles. Mais malgré tout, ça reste quand même réservé à une certaine aristocratie. On se doute bien que quelqu'un qui n'a pas trop de moyens peut pas cultiver une plante comme ça, qui prend autant de place et autant d'énergie. Il faut le protéger du froid l'hiver, etc. pour récolter quatre fleurs, quoi.
Du bassin méditerranéen, où il était une plante sauvage assez piquante, il a acquis ses lettres de noblesse dans le jardin du roi à Versailles.
Oui, c'est ça. En fait, bon, là où il a vraiment explosé, c'est avec Catherine de Médicis, bien qu'il soit revenu avant, bien qu'on les ait connus avant. Mais après, oui, et ben voilà, un légume aristocratique par excellence. Donc la Quintigny en cultive plusieurs variétés au potager du roi. Donc on sent qu'il commence vraiment là à avoir des vrais quartiers de noblesse. Et puis, il y a plein de légendes qui circulent à son sujet. On dit que Catherine de Médicis l'aimait tellement qu'elle en a mangé, qu'elle cuida crever, donc elle faillit en crever. Quoi, ça, que, là, vraiment, on s'imagine que...
Elle a fait une orgie de cœur d'artichaut.
Ouais.
Comment, avec du recul, avec le recul de plus de 2000 ans, on peut se demander comment l'homme s'est acharné à domestiquer une plante qui finalement était particulièrement hostile. D'abord par les piquants qu'elle comporte, et là vous nous en avez apporté des variétés un peu rustiques d'artichaut, et on voit bien, on se rend compte que ça pique. Et de surcroît, il y a peut-être un autre frein, c'est peut-être bien l'un des marqueurs gustatifs de l'artichaut, c'est l'amertume, qui aurait pu éloigner les hommes de ce chardon à l'état de cet artichaut à l'état naturel.
Alors il y a deux choses par rapport à ça. Je pense que l'amertume dérange, c'est très récent. Alors, on voit à la fin du 19e, on aimait les chicorées, etc. Maintenant nous on tend vers le sucre, mais je pense que c'est une tendance relativement récente en fait. Donc l'amertume n'était pas vraiment un problème, et je pense que on prêtait aussi une grande attention à la valeur nutritionnelle et entre guillemets médicinale de ce qu'on consommait. Et donc effectivement l'artichaut a mille vertus, et les chardons en général, hein, de toute façon. Donc je pense que c'est aussi très important pour ça. Alors la science contemporaine confirme effectivement, hein, toutes les vertus antioxydantes, etc., bonnes pour le foie, qu'on prêtait à l'artichaut. Néanmoins, je pense que c'est vraiment, il faut vraiment tenir compte du fait aussi qu'on l'a très tôt au printemps, en fait. Et que après un régime de légumes secs, avoir ce légume diurétique qui fait du bien, je pense que c'était aussi indispensable à une époque, plus que maintenant.
Très bon pour le foie, il a une réputation détoxifiante, hein, notamment quand on a fait quelques excès, des artichauts en ampoule.
Voilà, c'est ça, ça fait du bien pour tout le monde.
C'est ça. Quand on remonte, juste avant de passer aux recettes avec Julia, évidemment, quand on remonte la généalogie de l'artichaut, vous l'avez dit, cher Xavier, on retrouve le chardon, cette plante sauvage qui pique dans les champs et qu'on cultivait dans les campagnes, notamment en Sicile, comme en témoigne, avec étonnement, un certain écrivain allemand.
Goethe, voyage en Italie, 30 avril 1787. Il nous fallut remarquer, à notre grande confusion, que les chardons n'étaient pas totalement inutiles. Dans une auberge, avec étonnement, nous vîmes deux hommes graves, debout, avec leurs couteaux tranchants devant une de ces touffes de chardons. Ils coupèrent les parties supérieures de ces plantes, saisirent ensuite de la pointe de leurs doigts ce butin piquant, pelèrent la tige, et en mangèrent l'intérieur avec grand plaisir.
Festin champêtre, le cœur du chardon ? qu'on mangeait en Sicile.
Voilà, c'est ça. Mais alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que l'artichaut, les chardons, on les trouve à proximité, ils poussent partout. Donc il y en a forcément un qui est adapté à être consommé. Il y a le plaisir de l'attente aussi, qu'on a un petit peu perdu. Voilà, d'éplucher tranquillement, doucement. Et on trouve, par exemple, là je vous ai ramené du scolim d'Espagne. Du scolim d'Espagne,
oui.
Qui est encore cultivé au Maghreb essentiellement, dont on consomme la racine et les jeunes pousses.
Alors là, il faut décrire des feuilles qui pourraient ressembler un tout petit peu, en étant schématique, à celles du pissenlit, en plus
voilà,
piquant.
Voilà, mais bien plus piquante.
Oui. Et un tubercule très allongé.
Alors, qui ressemble, pour schématiser, à une grosse carotte qui serait pas pointue au bout.
C'est ça.
Donc, on voit aussi un intérêt quand même. On peut consommer plusieurs parties. Je vous ai ramené aussi un chardon-marie. Alors lui, je le touche pas parce que c'est même pas qu'il pique, c'est qu'il mord. Et on peut consommer les capitules. On consomme les feuilles aussi en coupant le limbe. Mais attention, à mon avis, il faut faire... C'est une sacrée opération.
Mais là, le chardon-marie, pour le coup, on a véritablement sa fleur ressemble à un artichaut bébé.
Ah oui, c'est ça, un petit bébé artichaut.
On est beaucoup plus proche de l'artichaut que de la fleur de chardon qu'on a l'habitude de voir sur les bords de chemin.
Alors, ce qu'on voit sur les bords de chemin, en fait, botaniquement, c'est souvent ce qu'on prend pour des chardons, ce sont pas des chardons.
D'accord.
Hein. Ce sont des circes, en fait. Donc, c'est des circes faux chardons. Et le chardon-marie, il a justement cette petite forme de capitule avec des bractées. C'est ce qu'on mange dans l'artichaut, les bractées, qui sont des pièces florales en fait, qui ressemblent à des feuilles et qui sont chargées de défendre la fleur qui est à l'intérieur. Ce qu'on appelle le foin dans l'artichaut, en fait, c'est la fleur. C'est pour ça que il faut vraiment de la patience pour manger de l'artichaut. Et on voit bien cette fleur quand elle est complètement épanouie, qu'elle fait effectivement comme une barbe.
C'est ça, comme une barbe. Julia Sedevian, vous êtes piquée d'artichaut depuis quand en qualité de niçoise?
J'adore ça. J'adore ça, je m'en lasse pas. Il y en a qui attendent les petits pois et les asperges, moi j'attends les artichauts.
Mais vous me disiez quand même que quand vous étiez petite, comme l'artichaut était, comme l'a rappelé Xavier Mathias, un produit cher et de luxe, c'était pas souvent à la maison.
C'était pas souvent à la maison, et en plus faut savoir le préparer.
Oui.
Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à l'apprécier au début de mon apprentissage en cuisine et quand j'ai commencé à faire des restaurants dans le sud. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'est dans toutes les cartes des restaurants, les artichauts violets, en cru, en cuit.
Et vous-même en ce moment, chez Bayetta, ça y va fort ?
Petit à petit. Pour l'instant, ils sont dans l'aïoli et là, je vais faire une petite salade en cru aussi. Je vais vous faire goûter.
Eh bien justement, parce que l'artichaut cru, c'est, figurez-vous, une pratique culinaire très courante à Nice et sur la Côte d'Azur. On va déguster dans un instant une fabuleuse... Pourquoi ? Parce qu'il y a un accord, un mariage terrible que validera d'ailleurs Estherelle Payani, elle aussi provençale. Mais je vous propose d'abord une leçon de tournage et de salade d'artichaut cru avec Dominique Lestanc, le chef de la Merinda, une auberge niçoise ravissante au cœur du Vieux-Nice.
On va les tourner pour enlever toutes les feuilles qui ne sont pas mangeables et puis pour enlever le foin qui est au centre de l'artichaut. Et on va faire une petite salade d'artichaut. Tout ça, c'est-à-dire que l'artichaut, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut le cuire, on peut le consommer cru. Les Niçois aiment bien le manger cru. Alors bien sûr, il y a la salade classique avec les copeaux de parmesan, l'huile d'olive. Nous, on va rajouter quelques petites choses pour être un peu plus original.
Les feuilles cassent, on sent que c'est extra frais.
Voilà, et puis tu vois, elles sont humides, on voit encore l'humidité à l'intérieur. Donc une fois qu'on a enlevé le gros des feuilles qui sont autour, on va couper la base. Et puis là, on voit un peu le cœur.
Un camaïeu de jaune et de vert tendre.
Ouais.
Là, tu prends un petit couteau d'office.
Ouais, un petit couteau d'office pour enlever. En fait, il faut enlever tout ce qui est vert parce que tout ce qui est vert n'est pas bon. Vert foncé, hein.
C'est un peu amer.
C'est amer, c'est pas bon. Et après, on va tourner le haut des feuilles qui sont un petit peu dures.
Tu arrondis les angles.
Voilà, on arrondit. Et maintenant, que l'artichaut est tourné comme ça, on appelle ça une cuillère à pomme noisette. Et ça nous permet, comme c'est un petit manche avec un petit rond au bout, de vider le foin sans enlever la chair de l'artichaut. Alors important, il faut prendre un petit quartier de citron, on va le passer dessus, parce que de toute façon le citron va servir à l'assaisonnement, et c'est surtout pour qu'il ne s'oxyde pas, pour qu'il reste bien blanc. Une petite goutte à l'intérieur du cœur, on passe le doigt, comme ça il ne va pas s'oxyder. Maintenant on va l'émincer. Alors il faut essayer de l'émincer le plus finement possible, qu'il reste bien craquant. Voilà, là on l'a émincé. Alors tout de suite, dès qu'il a été émincé, on l'arrose avec quelques gouttes de jus de citron, un tout petit peu de fleur de sel, un peu de poivre et l'huile d'olive. Et voilà, maintenant on est tranquille, notre artichaut ne va plus s'oxyder et on va pouvoir rajouter un petit peu ce qui vous passe, pas par la tête, mais par le marché, ce que vous avez trouvé le matin. Et vous voyez, moi j'ai trouvé des petites tomates, un petit citron confit, ça apporte un côté peps à la salade, et puis un petit goût d'agrumes qui est très bon. Et en ce moment, c'est l'ail nouveau. Alors l'ail nouveau est très bon parce qu'il n'est pas trop fort, on va l'émincer, très fin, on ne va pas en mettre trop, tout est une question d'équilibre. Hein. Quelques feuilles de coriandre, quelques pluches, on va dire, une grosse tomate cerise, maintenant elle commence à avoir du goût, en petits morceaux, en petits dés. Et en plus d'apporter son goût, ça va faire de la couleur, donc ce sera joli dans l'assiette. Et voilà, notre salade est bien belle, bien fraîche, bien blanche.
Merci, je goûte. Oui, je goûte. Oh, le croquant, un régal.
Le citron, la tomate.
Variation autour de l'artichaut cru par Dominique Lestanc, le fabuleux chef de la Miranda. Vous connaissez la Miranda ou pas, Julia? C'est dans votre ville natale.
Beaucoup.
C'est chouette, hein.
Beaucoup.
C'est auberge,
très,
vraiment,
très bien.
On mange très simplement. Il faut y aller aussi également, évidemment, pour les pâtes au pistou. Mais alors, il paraît que vous revendiquez, en fait, la vraie recette niçoise de salade d'artichaut cru. Car il y a un ingrédient que ne met pas Dominique Lestanc dans sa salade et qui change tout, qui relève le goût. Je crois d'ailleurs que Xavier Mathias s'est réconcilié avec l'artichaut, là, depuis qu'il a mangé. Depuis qu'il a goûté à la salade de Julien Salévian.
Mais pour moi, il n'y a aucun doute. C'est l'artichaut, il prend vraiment toute sa valeur quand il est cru, en fait. Hein,
il est croquant.
Ah ouais.
Presque
ouais,
juteux.
Vraiment génial. Hein.
Et qu'est-ce qui fait le côté miraculeux de votre salade?
Les anchois, c'est ça?
Les artichauts, anchois. Il n'y a pas meilleur mariage, on est d'accord ou pas?
Ah ouais, c'est un très beau mariage.
Les Italiens savent y faire aussi en la matière. Vous êtes d'accord?
Moi, c'était la salade que préparait mon père à table. Alors, à la maison, quand j'ai
Papa Payani?
Bah oui, Papa Payani adore les artichauts aux anchois. Mais moi, à la maison, je mets un tout petit peu à la place de Colato Radialici ou de Gnocchi Mam si j'en ai pas sous la main. Ça marche super bien dans la vinaigrette.
Et bah,
pour
bien
les
sûr, le Gnocchi Mam, après tout, on est sur une sauce de poisson pourri.
Exactement. C'est comme les anchois.
Qui a la sapidité de l'anchois, tout à fait. Comment on s'y prend, Julia? Parce qu'elle est vraiment extraordinaire, votre salade.
J'allais dire c'est tout simple, non. Déjà, faut tourner l'artichaut.
C'est sûr. Alors tourner, c'est un peu compliqué à expliquer au micro, mais on vous promet une vidéo qu'on va faire juste après l'émission et que l'on mettra en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Vous allez nous faire une démonstration de tournage d'artichaut.
Avec plaisir. Non, mais faut tourner l'artichaut. Après, on le vide du foin. Il y en a pas beaucoup dans les petits violets, les poivrades. C'est juste une cuillère à pommes parisienne ou à la cuillère. Mm-hmm. Moi, là, je les ai fait au couteau, finement, ou sinon, on peut faire à la mandoline. Jus de citron pour pas que ça s'oxyde.
Et ça c'est important parce que ça oxyde, hein, ça devient noir.
Très 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 vite. Et surtout si on a un couteau qui coupe pas aussi.
Ah oui.
Et après la vinaigrette, c'est tout simple, les anchois écrasés avec l'huile d'olive, le jus de citron, un peu d'ail et des olives de Nice.
Voilà. Et des olives de Nice, évidemment. Les olives, vous les intégrez dans la vinaigrette, enfin dans l'assaisonnement.
Juste un petit peu émincé.
Vous prenez des anchois au sel ou des anchois à l'huile? Des filets d'anchois.
Au sel.
Au sel. Ouais. Vous les dessalez un peu? Même pas.
Pas trop.
Pas trop, ça
sale. Là, j'ai pas salé, j'ai juste salé par l'anchois et moi, je les aime comme ça.
C'est absolument extraordinaire. On a plein de questions, Xavier Mathias, notamment sur cette façon de distinguer toute la famille des petits artichauts qu'on trouve beaucoup en Méditerranée, en Italie, du côté de Nice. Parfois, on les nomme violets, parfois, on les nomme poivrades, parfois, on trouve l'appellation sur les marchés artichaut bouquet. C'est des noms vernaculaires, ce sont pas des noms botaniques.
Alors là, en fait, pour une fois, on ne remercie pas les cuisiniers, hein, qui mettent en valeur en général vraiment tous les légumes. En fait, ce sont des noms de cuisine. Quand on dit poivrade, c'est pas une variété, c'est la façon dont on va pouvoir le préparer. Donc nous, on va parler d'artichaut violet, d'artichaut romagnien violet, par exemple, etc. Artichaut bouquet. Bah effectivement, les petits artichauts, là, j'en ai amené un, ça fait comme des bouquets quand ils sont formés sur la tige principale. Donc on a l'impression de bouquets, comme ils sont petits, ceux-là, tous les romagnas, tous les violets, etc. sont plus petits, c'est pour ça qu'on les appelle bouquets aussi. Mm-hmm. Donc se dire que c'est pas des noms de variété, mais que souvent ça désigne quand même bouquet poivrade, ça désigne des petits artichauts à la différence des cabus, des gros, ou gros vers de l'an par exemple, qu'on va pouvoir déguster cru.
C'est ça. Et c'est au moment de son acclimatation en Bretagne, par exemple, que la variété Camus, là on parle pour le coup de presque d'un artichaut un peu obèse, très rond, très sphérique, il a été adapté
compliqué.
À l'occasion de son voyage et de son acclimatation ?
Non, en fait, il était introduit un petit peu plus tard, hein, au courant 19e, en Bretagne. Alors, on a remarqué effectivement que ceux qui donnent des plus gros capitules sont plus résistants au froid, malgré tout. Plus résistants au froid, ça veut pas dire complètement rustique. Hein. C'est pour ça que la zone de production essentielle, c'est en Bretagne, parce qu'on est sur le littoral et que c'est protégé des fortes gelées. Mais donc, on avait des très bons résultats en matière de poids dans cette région-là.
C'est un peu la même histoire que le chou-fleur, en fait. C'est des variétés sauvages italiennes petites, très, très corsées, résistantes. On les met en Bretagne et ça devient beaucoup plus rond et résistant d'un coup.
Plus opulent.
Voilà.
On tend un piège à Jérôme Gagnès qui va tenter, oulala, un accord artichaut-vin et Dieu sait si l'exercice est casse-gueule.
On va déguster sur France Inter.
Alors Jérôme Gagnès.
Alors c'est vrai que c'est très casse-gueule l'artichaut, faut bien reconnaître.
Et pourtant, c'est pas tant la catastrophe que ça, vu votre
mine. Non, pas du tout. Je suis très heureusement surpris.
Oui.
Bon, le point de départ, c'est artichaut, asperges, ces légumes-là, ils sont un peu compliqués à assembler, à accorder avec les vins, parce que ils ont de l'amertume, ils ont un caractère très végétal, qui fait que les vins, c'est un petit peu compliqué. Alors, il y a des très jolis accords qu'on peut faire avec les asperges, les artichauts. J'aime bien sur des artichauts crus, notamment des vins de macération, mais on en a déjà parlé souvent ici. Donc
redonner la définition pour nos auditeurs d'un vin de macération.
C'est en fait les peaux qui macèrent dans le jus, comme si on faisait un rouge, et ça confère au vin blanc une certaine tannicité, des amers très nobles qui s'accordent assez bien avec l'artichaut. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de toute autre chose en matière de vin. Vous avez un blanc devant vous, je vous invite à le goûter et à me dire ce que vous en pensez.
Allez, tout autour, on va donner évidemment la priorité à Julia Sedevjian.
Moi, je l'ai goûté tout à l'heure avec les artichauts et ça se marie vraiment très très bien.
Oui.
Il a un côté gras et rond que j'aime et qui va justement avec cette salade d'artichauts qui est pour le coup... C'est sain, quand tu manges la salade d'artichaut, c'est frais, et du coup, j'aime bien ce côté gras qui équilibre.
Très bien, Xavier.
Alors moi, je trouve que les vins blancs sont souvent minéraux, et celui-là, pas du tout, je trouve très végétal, je trouve qu'il va parfaitement avec les artichauts.
Avec une certaine rondeur aussi, oui.
Bah oui, il y a de la rondeur, parce que c'est 2018, c'est un millésime solaire, donc c'est un vin qui est généreux, qui est assez riche, qui ne manque malgré tout pas de fraîcheur, c'est ça qui m'a plu dans ce vin. Il y a un tout petit peu de gaz carbonique, un tout petit quart de poil qui fait que ça conserve de la fraîcheur aussi, on le sent quasiment pas. Mais ça contribue à conserver de la fraîcheur. C'est un chardonnay avec 10% de pinot gris. Le pinot gris, on l'a au nez, hein, ce côté un peu beurré, ce côté un petit peu abricot, ce côté très légèrement fumé, ça c'est la signature du pinot gris, on l'a. Et alors figurez-vous que je parlais de vinaigre tout à l'heure, parce qu'il y a une ville qui est réputée pour ses vinaigres, c'est Orléans. Et c'est un vin qui vient d'Orléans.
Ah c'est ça votre jeu de mots de...
Oui, qui était un peu lamentable, je vous l'accorde. Donc, Orléans, c'est un vignoble qui fait 40 hectares, c'est tout petit, rive gauche de la Loire, à quelques encablures d'Orléans, c'est même dans la grosse communauté de communes d'Orléans. Donc c'est un vignoble qui est vraiment tout petit. Il y a 1000 hectares, il y a 2000 hectares potentiels. Il y en a 42 plantés, autant vous dire que on se bouscule pas pour planter de la vigne près d'Orléans. C'est bien dommage. Goûtez maintenant le rouge que vous avez dans vos verres et je vais vous en parler pendant que vous le goûtez. Goûtez-le vite et dites-moi parce que il y a un cépage là et ça qui est très intéressant à Orléans, c'est que ils ont un cépage rouge qu'on déguste très rarement en vin rouge. C'est très aromatique, c'est floral. Ça a un caractère très ouvert. Ça fait un petit côté un peu griotte. C'est le Pinot Meunier. Il y a 80% de Pinot Meunier, 20% de Pinot Noir. C'est sapide le Meunier.
Ouais.
Il y a une certaine tannicité. Moi j'aime beaucoup.
Bien marqué.
Oui. Mais j'aime beaucoup parce que les tanins sont fins ici. C'est vif. C'est rafraîchissant. C'est un vin que je trouve très digeste. Il y a un côté goulayant que j'aime bien dans ce vin. C'est un vin qui va avec plein de choses, plein de cuisines d'été, plein de recettes qui font le bonheur de nos repas d'été. Et voilà un vin que j'aime beaucoup aussi pour ce côté très aromatique, parce que je trouve ça tout à fait réjouissant. Ces deux vins viennent d'un domaine qui s'appelle le Clos Saint-Fiacre.
Eh oui, Clos Saint-Fiacre. Bien sûr.
Bénédicte et Hubert Montigny-Piel. Ils ont 17 hectares. Ils font des très jolis vins qui sont, encore une fois, tout à fait dans la veine de ce qu'on peut trouver sur ces terroirs, qui sont assez sableux, parfois un peu argileux. Pour certains, sur les plateaux proches de la Loire, sur un socle calcaire. Pour d'autres, plutôt vers la Sologne, qui sont là, pour le coup, résolument graveleux et sableux. Donc les graves, ce sont ces petits, ces petites pierres qu'on trouve. Ce sont deux vins qui sont à 9 euros TTC départ domaine, donc c'est vraiment très raisonnable. Et donc vous aurez toutes les coordonnées évidemment sur la page de l'émission, mais encore une fois, voilà un joli domaine qui fait des jolis vins, sincères, francs. Encore une fois, je trouve que l'expression du Pinot Meunier chez Hubert et Bénédicte est tout à fait digne d'intérêt. J'aime beaucoup ce vin. Un tout dernier mot rapidement, nous avons Pierre Levallois qui nous dit de ne surtout pas oublier le Cynar, qui est un amer et italien à base de d'artichaut.
Absolument, donc, c'est un apéritif amer italien à base d'artichaut. Et Cynar, c'est d'ailleurs le nom du genre. Hein.
Exactement. Voilà,
c'est ça. Famille Asteraceae, voilà. Autrefois composée.
Oui, voilà. Oui.
Et le genre, c'est Cynar.
Cynara. Et Scolymus, après, pour aller Cynara Scolymus, var Cardunculus pour les cardons et pour les artichauts.
C'est ça. Et le trait gustatif du Cynar, ce fameux apéritif italien, c'est évidemment l'amertume, Estherelle.
Et il est réalisé avec aussi les feuilles et les queues des artichauts. Voilà, ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on pense pas toujours à consommer. Alors, c'est là où c'est justement le plus riche en substances bonnes pour le foie. Et donc, quand on prépare les artichauts aussi, ça vaut le coup de peler la queue pour la grignoter.
Juste un détail, faire attention, c'est une anecdote familiale, mais quand elles étaient plus jeunes, nos filles, quand elles avaient décidé d'arrêter de sucer leur pouce, quand ça venait d'elles, pour les aider, on frottait le pouce avec une feuille de cardon ou d'artichaut, faites l'essai, vous allez voir. Il fallait qu'elles aient envie, voilà, elles n'étaient pas forcées, mais effectivement, là, ça fait une piqûre de rappel, hein, parce que c'est extrêmement amer, hein, quand même.
Ou quand on tronche les ongles, on peut se badigeonner les doigts.
Voilà, c'est ça. C'est une substance naturelle qui peut être répulsive.
C'est ça, comme quoi, effectivement, preuve que l'artichaut est effectivement très porté sur l'amertume.
Maintenant, je pense que mon vernis à ongles pour ça, c'était à base d'artichaut, c'est sûr.
Oui, c'est...
L'amertume, là.
C'est tout à fait possible. Dans un instant, Julia Sedevian nous fait un risotto d'artichaut et bien d'autres recettes encore, plein d'informations avec Xavier Mathias. C'est juste après Dominique A avec la poésie.
La poésie s'en est allée. Je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était. Puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème
J'aime l'artichaut, j'aime son nom, son goût, ses feuilles, son cœur, sa forme, sa couleur. Je l'aime cru, je l'aime cuit. S'il fallait tout recommencer, je vivrais avec un artichaut. Je l'emporterais partout, au Mont-Saint-Michel, en Grèce, en Jordanie. Je lui ferais comprendre combien la tolérance est une vertu cardinale et comment on peut supporter le froid sans être bardé de vêtements chauds, mais simplement en se concentrant. Enfin, je lui répéterais tous les jours, pour qu'il ne soit pas effrayé par l'amour que je lui porte, que la vie est incompréhensible et que c'est la raison pour laquelle je vais le manger.
Nous aussi, on va les manger, les artichauts sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en direct en ce dimanche 12 mai avec Xavier Mathias, notre pote du potager, qui nous a apporté une très belle panoplie de la famille artichaut. Julia Sedevian, chef de Bayetta, une étoile Michelin, 5 rue de Pontoise, Paris 5e. Vous êtes en plus niçoise, ce qui vous rend très porté sur l'artichaut. On l'entendait, vous l'avez reconnu, c'était Pierre Arditi qui lisait un extrait d'un texte de Jean-Michel Ribes chez Augustin Trapenard. En avril 2018, plein de questions de nos auditeurs. L'artichaut fait vraiment réagir à la maison, Estherelle.
Alors, on en a pas mal qui sont perdus, notamment Bastien, sur les saisons, les variétés, en disant on en trouve toute l'année, des petits, des grands, mais c'est quand au juste la saison de l'artichaut?
On n'y prend pas. Là, je suis d'accord avec Bastien, c'est ça?
Bastien.
On n'y comprend pas grand-chose à la saison de l'artichaut, selon les régions de production,
les variétés. Elle est très longue. Elle est en fait très longue, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, pour un Breton, le 1er mai, c'est pas le muguet. C'est la première coupe de l'artichaut. Alors ça veut dire aussi que par contre dans le sud de la France, ça va arriver un mois plus tôt à peu près début avril.
Jusqu'au
gelé. Effectivement c'est une saison qui est très très longue. Les artichauts émettent des capitules régulièrement quand on les coupe. Donc ça va commencer pour les plus petits début avril en général et ça va se terminer au gelé octobre, parfois novembre dans certaines régions. Donc c'est très long en fait.
C'est ça. Par exemple il y a une recette absolument prodigieuse, les carciofi e la giudia, qui sont ces artichauts à la juive dans le ghetto de Rome. Ce sont des artichauts de la variété romanesco. Alors je ne sais pas s'il y a des équivalents en France, mais en tout cas, un artichaut visiblement d'hiver. Et uniquement de février à avril, on consomme ces artichauts qui sont en fait ouverts en fleurs et plongés dans la friture. Ça donne, c'est un festin de croustillance. C'est vraiment une des recettes les plus exceptionnelles à goûter encore dans quelques restaurants du quartier hébraïque de Rome, avec une variété plutôt hivernale.
Voilà, mais je pense que c'est aussi ça qui a fait aussi tout le succès de l'artichaut, c'est sa longue période de production, hein, tout simplement. Hein.
C'est ça. Estherelle ?
On a aussi beaucoup de suggestions de recettes. Alors pour vous mettre en appétit, on tient à l'anis, évidemment, on met les fèves, les radis avec, mais aussi quelque chose que je ne connaissais pas du tout, une salade artichaut cru au foie sec de porc, passée légèrement à la poêle. Alors on a deux auditrices, hein, Véronique et Aude, qui nous le signalent. Je ne sais pas comment s'appelle ça, peut-être le foie sec, je crois qu'il va falloir qu'on aille enquêter.
Oui,
François Régis, visiblement dans l'Aude.
Très intéressant. Aussi
une mayonnaise au yaourt avec un petit hachis d'échalote et de persil plat pour changer de la vinaigrette sur l'artichaut
cru.
Sur l'artichaut cuit plutôt.
D'accord.
Et puis on a pas mal de jardiniers qui nous disent que le problème de l'artichaut violet, c'est l'invasion de pucerons dans le jardin.
Xavier Mathias.
Alors moi, oui, faut-il considérer ça comme un problème? Parce que quand on voit plein de pucerons, ça veut dire qu'il y a plein de cirfes, de coccinelles, etc., qui vont arriver. Après, on récolte l'artichaut et bain d'eau vinaigrée, voilà, pour décoller les pucerons. Effectivement, c'est extrêmement désagréable, je confirme. Mais voilà, donc pour éviter que ce soit nous qui les mangeons, les pucerons, un bain d'eau vinaigrée, en général, ça suffit juste à les décoller.
Pas mal d'auditeurs nous demandent des renseignements sur l'origine de l'expression très française « avoir un cœur d'artichaut ».
Ah bah c'est pas compliqué.
C'est avoir un cœur d'artichaut, on précise que ça veut dire tomber amoureux assez souvent.
Voilà, donc un sépale, une bractée pour chacun, en fait. Voilà, à chaque fois qu'on enlève une bractée, on compte un amoureux. Donc ça fait quand même pas mal, hein, arriver au cœur.
Il faut avoir la santé.
Oui.
Et puis Rebecca à Cassis nous signale enfin, décidément il y en a des réactions, que l'artichaut serait une présure végétale. Moi en fait je le sais parce que je l'ai vu faire, notamment en Sicile, les fleurons épanouis de l'artichaut, comme les chardons d'ailleurs, possèdent la propriété de faire cailler le lait. Il a longtemps servi de présure végétale autour du bassin méditerranéen et notamment dans des régions du sud de l'Italie. Il y a encore des bergers qui font du fromage avec cette présure végétale et non...
En Espagne aussi.
En Espagne.
En Espagne, hein, pour les fromages de brebis, en fait, qui sont en extra-madure. Fromage de brebis très coulant, très moelleux, parce que ça ne tient pas forcément très très bien avec...
Donc fromage végétarien
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Oui, en fait, il y a pas mal de plantes qui permettent de faire ça. En France, on utilisait le gaillet gratron aussi. Donc, gaillet, ça vient de cahier, en fait. On a pas mal de végétaux qui permettent de faire prendre le cahier du lait.
Il y a notamment le lait de figue également, qui permettait de servir de présure végétale. Qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes, Julia Sedevian? Oh là là.
Alors là, je vous ai fait un petit risotto. Coquillages et artichauts.
Il est tout chaud par la magie de la radio.
Pour moi, les artichauts, ça se marie vraiment avec les poissons, les fruits de mer, les coquillages. J'ai du mal à l'associer avec de la viande, mais j'adore le faire avec du poisson. Et voilà, et c'est une belle association, je trouve. Soit un risotto avec du riz rond, soit même aujourd'hui avec des petites pâtes comme les frigolas sarda, on peut faire ça. Ouais. Le petit côté iodé. Avec l'artichaut cuit, là je l'ai juste cuit, vin blanc, petit bouillon hier, un peu de thym.
L'artichaut se prête aux accords ternaires.
Exactement, exactement. Pour moi en tout cas, c'est la meilleure association.
Vous faites un risotto un peu classique avec quelle variété de riz? De l'arborio, du carnaroli?
Ouais, là c'est de l'arborio, exactement.
Vous faites cuire il faut le mantecare, vous le montez, vous le graissez, etc. Et les artichauts, ça arrive plutôt à la fin?
À la avec fin, les fruits avec les coquillages, exactement.
Ouais. La recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. On ne peut pas raisonnablement faire une émission sans l'artichaut, sans évoquer peut-être bien la recette française la plus connue de notre patrimoine gastronomique. Je veux parler évidemment des artichauts à la
Barigoule.
Oh, elle suit l'émission, Estelle. Barigoule. Alors, c'est vrai, les artichauts à la Barigoule, déjà une petite explication sémantique. À la Barigoule, c'est vrai que c'est un nom un peu bizarre.
Ouais, on pense que c'est une préparation souvent, mais en fait, à l'origine, c'est que ça se faisait non pas avec une farce, mais avec de l'agaric du panico, qu'on appelle aussi l'actère délicieux.
Ah oui, c'est un champignon.
Et son petit nom, oreille de chardon, en plus. Ça le relie d'autant plus. Mais il en pousse plus beaucoup dans la région du l'actère délicieux. Donc après, par transfert, ça a donné son nom à la farce.
Donc artichaut à la Barigoule, il n'y a plus de...
Il n'y a plus de Barigoule, mais le nom est resté.
Il n'y a pas de champignon.
Racontez-nous cette recette en deux mots, sachant que là encore, vous nous avez fait la gentillesse de nous donner la vraie, pure recette d'artichaut à la Barigoule, qui est magnifique à faire à la maison. Julia Sedevian. Le principe, c'est une fricassée, enfin une cocotte d'artichaut cuit, en fait.
C'est ça, avec une base de oignons, carottes et lard. Alors attention, parce que les gens se disent à la Barigoule, maintenant c'est cuit au vin blanc. Pas du tout, pas du tout. La Barigoule, c'est oignons, carottes, lard qu'on fait revenir avec de l'ail, du thym. Enfin, c'est vraiment cette base-là qui fait le nom de la Barigoule. Sinon, cuit au vin blanc, c'est cuit au vin blanc, quoi. C'est pas la Barigoule du tout.
C'est ça, absolument.
Ben, j'étais persuadé que c'était au vin blanc, moi, justement.
Alors, il y a un peu de vin blanc.
On peut déglacer au vin blanc.
Il y en a même un
attention,
peu.
Attention, on déglace au vin blanc.
La spécificité de la Barigoule, c'était précisément.
Non, mais il y en a.
Il y en a, on déglace. Mais par contre, ouais. Un artichaut qu'on cuit juste au vin blanc, les gens aujourd'hui appellent ça Barigoule. Pas
alors qu'il y a en plus du vin blanc, il y a toute une garniture aromatique. Il y a notamment du thym.
Du thym, de l'ail.
De l'ail, beaucoup d'ail, des carottes. C'est important,
carottes,
la carotte.
Oignons doux et le lard qui est
constitutif.
Voilà.
On peut le dire, des artichauts violets à la Barigoule. Malheureusement, on ne peut pas les goûter, mais vous avez déjà beaucoup cuisiné pour nous. Et si on comptait Florette avec Estherelle?
On va déguster. Sur France Inter.
J'ai une bonne nouvelle, chers auditeurs. Estherelle Payani est d'humeur butineuse et jardinière aujourd'hui.
Bah oui, parce que l'artichaut, c'est quand même un chardon. Et moi, j'adore les fleurs, même celles qui piquent. Alors, avec le printemps, je me suis demandé ce que j'allais faire pousser dans mes jardinières cette semaine. Mm-hmm. Parce que c'est le bon moment. On est en plein dans les Saintes Glaces jusqu'à lundi. Vous savez, hein, Saint-Servais, Saint-Pancras et Saint-Mamère font à eux trois un petit hiver.
Votre voisin Xavier Akiès.
Ah oui, je confirme.
Ouais. Et après ça, on va pouvoir y aller. Et pour ne pas se planter, justement, autant choisir des plantes jolies à regarder, délicieuses à déguster et surtout bonnes à butiner.
Je peux vous donner un petit surnom, Estelle?
Allez-y.
Mayani l'abeille, non?
Voyons, c'est Payani, pas Mayani, François. Les abeilles sont responsables en effet de la pollinisation de 80% de notre environnement végétal et ce sont donc des maillons essentiels pour la biodiversité. Et comme elles sont plus que malmenées en ce moment, ce serait donc bien de leur donner un coup de pouce, qu'on ait une jardinière, un coin de balcon, un toit terrasse ou un grand jardin. Et pour cela, il faut donc choisir des plantes mellifères.
C'est-à-dire des plantes qui aident à la production du miel.
Alors même un peu plus que ça, c'est des plantes qui sont indispensables à tout le fonctionnement de la ruche. Des plantes qui produisent de bonnes quantités de nectar et de pollen, puisque ça ne sert pas à la même chose, hein, et que les abeilles ont besoin des deux, à des moments différents de la saison. et qui naturellement les attirent. En choisissant ces espèces-là, qu'on pourrait dire d'intérêt apicole plutôt, on les aide à avoir l'alimentation nécessaire pour vivre et on participe au maintien de la biodiversité.
Bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir Xavier Mathias sous la main. Alors, s'il fallait donner quelques conseils de plantes mellifères à planter.
Alors déjà, on peut faire très simple en choisissant des mélanges de graines tout près dans le commerce, hein, qui font de belles floraisons très colorées. On en trouve d'ailleurs en ce moment associés à 3 pots de miel d'Île-de-France dans un petit coffret qui s'appelle Fête du Bruise. Voilà, une initiative que j'aime beaucoup, qui s'appelle signée par Jiminy's. On avait parlé d'eux d'ailleurs parce que leur spécialité, c'est les insectes comestibles, criquets, vers et autres grillons, mais là, ils soutiennent les abeilles sans les manger. Donc on trouve leur miel et les graines à planter sur leur site jiminy's.com et chez les Natures et Découvertes d'Île-de-France, avec les bénéfices reversés à la Fondation Nature et Découvertes.
C'est une très belle initiative. Et qu'est-ce que les abeilles aiment plus précisément se mettre sous la trompe ?
Alors, je mets de côté les arbres quand même, hein, pour me focaliser sur ce qu'on peut rapidement faire pousser chez soi. En gros, elles aiment ceux qui sont bons et forts, avec des couleurs éclatantes, comme moi, quoi. Elles sont branchées, bouquets garnis et fines herbes. Thym, menthe, romarin, ciboulette, fenouil, sarriette. La pizza aussi, ça les tente bien avec l'origan. Et elles sont aussi très fleurs bleues, une couleur qu'elles voient particulièrement bien. D'où le succès du thym, mais aussi des bleuets et aussi de la bourrache. La bourrache, l'avantage, c'est qu'on mange les feuilles, comme les épinards, et on peut leur laisser la fleur, justement. Pour plus d'idées, je vous ai d'ailleurs mis sur le site la liste des 200 espèces mellifères recommandées par la Société d'Horticulture de France pour varier les couleurs et les goûts et faire votre petite sélection.
Vous la connaissez, la Société d'Horticulture de France,
Xavier Mathias ? Bien sûr, oui. J'en profite juste pour dire que là, on parle de l'abeille domestique et qu'il y a toutes les abeilles et les butineurs en général à préserver. Et donc, oui, planter des mellifères.
Planter des mellifères, ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. Et comme les fleurs, bah, vous les laissez désormais aux abeilles, Esther El Payani, et vous avez bien raison. Vous nous avez préparé, oulala, attention, une confiserie qui leur rend hommage, qui est délicieuse, qui est un truc un peu ovniesque. Croustillant, ça a la couleur du pain d'épices, un peu, on va dire, caramel orange.
Alors c'est un peu une bombe calorique néanmoins, à consommer doucement.
Est-ce qu'on peut juste montrer à nos auditeurs l'effet que ça fait, sous la dent ?
Allez-y.
Ah ouais.
Ça croustille.
Mais c'est croustillant presque...
Plein de petites bulles surprenantes.
Oui, voilà.
Alors c'est une petite gourmandise britannique qui contient du miel et qui s'appelle honeycomb, c'est-à-dire le rayon de miel, à cause de sa texture si rigolote. C'est surtout une expérience de chimie amusante, assez spectaculaire à faire, puisqu'il n'y a que 3 ingrédients, du miel, du sucre et une bonne dose de bicarbonate de sodium. Quand vous mettez ça dedans, ça fait une réaction chimique, ça bulle, ça foisonne. Alors si vous voulez le faire à la maison, surtout vous prenez une grande casserole en commençant, parce que ça va vraiment spectaculairement monter. 275 g de sucre, 170 g de miel... Une pincée de sel. Vous faites chauffer en remuant avec une spatule souple jusqu'à 145 degrés. Vous retirez du feu. Vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium tamisé. C'est super important.
Oui.
Il faut vraiment pas qu'il y ait de petits morceaux qui va gêner après. Et alors là, vous observez la chose. On croirait un chaudron de sorcière. Ça gonfle dans tous les sens. Et vous le reversez très rapidement sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Vous laissez refroidir une heure et vous cassez en petits morceaux. Vous pouvez grignoter ça comme un caramel beurre salé, un peu, avec cette texture croustillante. Vous pouvez aussi le hacher et le mettre sur une glace à la vanille.
C'est un régal. Ouais, c'est ça, on peut faire des brillés. C'est une très bonne idée, ça, pour apporter une note crunchy, croustillante.
Voilà, c'est un petit caramel, un petit caramel salé pétillant, croustillant. Presque du sucre pétillant, en fait.
Très bonne idée. On voit beaucoup, Julia, c'est des viandes, notamment dans les... commerce italien, des bocaux d'artichauts qui sont conservés à l'huile d'olive. C'est pas si compliqué à faire à la maison, le plus compliqué étant toujours cette fameuse phase
de tourner l'artichaut.
De tourner l'artichaut, c'est ça. Comment on s'y prend ?
Alors, pour les bocaux,
oui.
C'est tout simple. C'est un bouillon avec les aromates, graines de coriandre, graines de poivre, thym, ail, une pincée de sucre.
Oui.
On fait cuire à ébullition 10 minutes.
Des artichauts.
Des artichauts. Donc le bouillon.
On parle bien de ces fameux artichauts violets dont on garde un peu la queue.
Exactement. On les laisse refroidir dans le bouillon pendant une demi-heure.
D'accord.
Ça attire, ça va garder la tendresse. Et une fois froid, on les met dans nos bocaux recouverts d'huile d'olive. Et là, on remet des aromates frais, graines de coriandre, graines de poivre, thym, pour que ça redonne. Et le must, c'est d'attendre 3 semaines, 1 mois que ça marine comme ça dans l'huile d'olive. Et là, on a quelque chose de fabuleux. Là, je les ai fait hier, on va les goûter quand même, on va voir.
Est-ce qu'il peut goûter notre ami Jérôme Gagnès. Les bocaux d'artichauts marinés à l'huile d'olive, on pratique aussi cette méthode de conservation, évidemment, dans le sud de la France. On a une question pour vous, Xavier Mathias. On nous demande si un légume qui est appelé en anglais Jerusalem artichoke, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, ça peut désigner essentiellement topinambour, ou alors parfois même les pâtissons. En fait, de légumes qui vont avoir des saveurs qui rappellent celles du cœur d'artichaut. C'est tout simplement une similitude
même famille botanique.
Alors, quand on parle, alors c'est ça le problème avec les noms vernaculaires, c'est que tout est juste en fait. Donc, quand il s'agit des topinambours, oui, même famille des astéracées, des composés, donc. Ou alors, mais quand il s'agit des pâtissons, ce sont des cucurbitacées cette fois.
Hein. On est bien d'accord, Julia.
Mais les pâtissons, ça a vraiment le goût d'artichaut?
Moi, je trouve pas.
Bah, moi non plus.
On est d'accord. Eh bien, je vous propose de voter une pétition. Non, le pâtisson n'a pas le goût d'artichaut. Que les choses soient dites. On rectifie là. Et on est très heureux.
L'artichaut violet, oui, Jérôme, extraordinaire.
Très bien.
Oh la vache.
Ah, c'est parfait. Il est en train de se faire le pot d'ailleurs. Merci beaucoup, Xavier Mathias. Merci beaucoup, Julia Sedebian. On retrouve votre cuisine inspirée et ensoleillée chez Bayetta, dont je vous laisse le soin de donner l'adresse à nouveau.
Le 5 rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement.
Absolument. La semaine prochaine, on vous sert sur un plateau un fromage savoyard. Un fromage qui a des choses passionnantes à nous raconter sur le plan historique, gustatif, écologique. Le Beaufort, une réussite à la française. Merci les amis, à la prochaine. Et à dimanche prochain, si vous avez encore faim.